Chapitre 6e. Mon père vint enfin me chercher pour me conduire chez son beau-frère Charles. C'était un petit homme vif qui portait des bijoux, chauve, avec quelques longs cheveux très fins, et qui, dans les différentes circonstances de la vie, s'habillait de la façon qu'il croyait appropriée à ses circonstances. Il habitait un petit appartement rue Victor Massé, encombré de bibelots sans valeur et d'objets qui avaient une utilité mais qui n'en avaient plus aucune, comme des rouages d'horlogerie, des parties détachées de vieux appareils photographiques, de dynamos, de phonographes. Le jeu, la poésie, les femmes, la musique, la mécanique lui avaient inspiré successivement une grande passion. En un mot, c'était un personnage pittoresque. Comment avais-je pu en vouloir à mon père d'avoir tant tardé à me conduire chez cet homme? Il allait certainement trouver le moyen de jouer une autre comédie à mon sujet. J'avais passé par tant d'épreuves, et les heures que je vivais étaient si graves, que le pittoresque ne m'amusait pas du tout. Il fut heureusement entendu que je ne passerais que quelques jours rue Victor Massé. Pendant ce temps, mon père se mettrait à la recherche d'un abri où je pourrais organiser ma vie et m'occuper de façon utile. Chaque fois qu'on sonnait, j'étais pris de frayeur, car presque personne ne venait voir Charles, ce qui donnait à un coup de sonnette isolé dans la journée un air lourd de menace. Je m'en voulais de ma pusillanimité. Elle était excusable. Enfermé dans cet appartement, coupé des gens que je connaissais, je me rendais compte que mon sort dépendait à présent de deux personnes qui ne m'inspiraient aucune confiance, mon père et son beau-frère. Rien n'est plus pénible que les malheurs qui nous arrivent par des intermédiaires. Quand quelqu'un qui nous est cher, par exemple, ne rentre pas, plutôt que de rester chez soi où le concierge, un ami ou un coup de téléphone nous renseignera, il vaut mieux sortir, aller au-devant du malheur pour tâcher de savoir ce qui s'est passé avant qu'on nous le dise. Le calme dans lequel je vivais ne me faisait donc aucun bien. Chaque fois que je me trouvais en présence de Charles, j'avais l'impression qu'il savait des choses qu'il me cachait, et comme il s'occupait tranquillement de ses affaires, j'étais hors de moi. Grâce à moi, il appréciait encore davantage la bonne petite vie qu'il s'était organisée. Rien n'était plus désagréable dans mon inquiétude que cette impression d'accroître par ma présence le bonheur d'autrui. J'en vins alors à me dire que, quand on est malheureux, on ne devrait avoir recours qu'à des gens qui nous aiment profondément, qui, quoique n'ayant rien à perdre, souffriraient réellement s'il nous arrivait quelque chose, ou bien qu'à des indifférents complets comme Georget, Guégan, ou bien encore à des gens personnellement intéressés à notre sécurité, menacés comme nous. Mais il n'y a rien de pire que ces gens qui sont soi-disant intéressés par notre sort. Il vaut mieux être seul. Mais que faire? Si je m'écoutais, je ne resterais nulle part. Il fallait bien que je vive quelque part. Je savais que cette impression pénible qu'on éprouve en arrivant chez de nouveaux hôtes s'évanouit peu à peu. Je ne pouvais plus me permettre d'attacher de l'importance à ces sensations de dépaysement. 3 jours après, mon père vint me voir. Il m'annonça qu'il avait revu Mondanel. Il s'était bien gardé de me prévenir. J'éprouvais un grand malaise. Il n'avait certainement pas pu lui cacher que j'habitais chez son beau-frère. Cette réapparition de Mondanel détruisait le commencement de sécurité que me donnaient les habitudes que je venais de prendre. Tout était à recommencer. Mon père me dit qu'il n'avait pas révélé mon adresse à Mondanel. Il me le jura, mais je n'avais aucune confiance en lui, non pas qu'il fût un menteur, mais il n'avait aucun scrupule de cacher la vérité quand il croyait être utile en le faisant. Le plus désagréable était cette sensation qu'on essayait d'arranger les choses sans me tenir au courant de tous les détails. Au lieu de faire ce qui eût été vraiment efficace, me cacher, m'aider dans cette lutte contre l'autorité du moment, je sentais qu'on s'efforçait au contraire, par tous les moyens, de régulariser ma situation, de me faire entrer par un truc quelconque dans la vie normale. Rien n'est plus inquiétant que ces interventions faites en notre faveur et à notre insu par des parents ou des amis. Nous quittons des gens qui étaient de notre avis et nous retrouvons des gens sous le coup d'une dernière conversation et qui pensent brusquement tout autrement. Nous nous sentons alors bien seuls en constatant qu'il a suffi de quelques heures, de quelques jours d'absence pour qu'on se fasse de notre salut une idée diamétralement opposée à la nôtre. Nous devinons qu'ils se sont mis très vite d'accord pour trouver que notre situation était grave, beaucoup plus grave que nous ne le pensions, que nous ne pouvions pas la juger sainement, qu'il était urgent de faire quelque chose même si nous n'étions pas d'accord. Dès que les gens s'entretiennent ainsi d'un tiers, ils se créent tout de suite entre eux une entente dont celui-ci fait les frais. Sans le vouloir, mon père avait certainement été jusqu'à dire des choses qu'il n'aurait pas dites devant moi. Je reconstituais la scène. J'entendais mon père dire que ma situation était plus grave qu'il n'avait cru d'abord. Mondanel de répondre, je m'en doutais. Tous deux examinant avec une feinte objectivité ce qu'il convenait de faire pour moi, et tombant d'accord sur la nécessité de me persuader que je devais me constituer prisonnier. Les gens avaient l'impression que je cachais quelque chose. Je sentais que, malgré mes efforts, le soupçon se glissait en eux, que je ne me trouvais pas dans cette situation difficile uniquement parce que j'étais un évadé, mais aussi parce que je n'avais pas de ressources. Rien n'était plus naturel. Certains indices ressemblaient comme des frères à ceux qui permettaient jadis de déceler la misère. J'avais beau rapprocher la date de mon évasion, dire « quelque long a été le temps écoulé », le mois dernier quand je suis arrivé à Paris, les raisons de mon dénuement étaient de plus en plus difficiles à attribuer à ma situation d'évadé. Il y avait, pour les gens, quelque chose qui n'était pas clair. Pourquoi n'allais-je pas dans ma famille ? Il m'était apparu alors que ma sécurité serait plus grande si je parvenais à gagner un peu d'argent. Quoiqu'au milieu des événements où nous vivions, la pauvreté n'eût plus l'importance de jadis, je sentais qu'elle était toujours suspecte aux Allemands. Ils étaient tellement fiers, ils aimaient tellement le tape à l'œil, ils avaient tellement envie de paraître aux yeux de ces connaisseurs de français, que j'avais l'impression très nette que si je venais à être mêlé à une sale histoire, mon sort dépendrait de la façon dont j'étais habillé. Mon pauvre costume qui m'avait paru un habit de déguisement, qui jadis m'eût assuré le plus complet des anonymats, semblait devoir me trahir de plus en plus. On m'avait raconté que lorsque l'on franchissait la ligne de démarcation en première classe, la surveillance était bien moins grande qu'en troisième, dans les restaurants chers également. J'avais remarqué que c'était dans le caractère allemand de respecter les distinctions de fortune. Bien que les obstacles ne fussent plus les mêmes, c'était quand même toujours difficile de gagner de l'argent. Mon père devait bien en avoir. Il ne dépensait absolument rien puisqu'il était logé, nourri et blanchi au collège Sévigné. Mais il était tellement avare qu'il ne lui venait pas l'esprit qu'on puisse en apercevoir. Je me résolus à en parler à Roger. J'avais déjà été le voir trois ou quatre fois rue Georges Sand, mais je ne l'avais jamais trouvé. J'étais allé non seulement pour lui, mais pour le quartier. Jadis, j'aimais beaucoup ce quartier où habitait justement la sœur si élégante de mon père, et c'était pour moi qui venait d'Éterne, de la partie populeuse d'Éterne située dans le bas de l'avenue MacMahon, parallèlement à la rue des Acacias, comme une vue sur la vie que je mènerai plus tard, quand je me marierai et que j'aurai les moyens de louer un bel appartement. Mais à présent, j'étais déçu. Il y avait toujours des petits jardins, des rues tranquilles. Rien n'était changé, mais l'âme de ce quartier, comme celle de tous les coins aimés de Paris, s'était évanouie. Ce qui, dans mon souvenir, en faisait le charme, les habitants se promenant le matin au soleil, la sensation d'aisance, le soin qu'on prenait des enfants, leur insouciance, tout cela avait disparu. J'étais certain que par Roger je trouverais bien le moyen de faire quelques petites affaires. Rien de plus pénible que de voir que notre avenir, notre santé, notre vie même dépendent d'une somme d'argent, d'une certaine façon de vivre que d'autres possèdent sans que cela soit nécessaire pour eux, sans en connaître le prix, alors que pour nous ce n'est pas une question de vanité mais d'existence. Je fus frappé lorsqu'enfin je rencontrai Roger, qu'en si peu de temps il eut trouvé le moyen d'effacer toutes les traces de ce que nous avions enduré ensemble. On eût dit qu'il n'avait jamais été prisonnier, mieux même qu'il n'y avait pas eu de guerre. Il me présenta certains de ses amis. Dans ce genre de situation, la période de début est toujours excellente. Roger n'avait qu'une idée, me montrer qu'il était heureux, comme un homme qui revoit une femme qu'il a quittée. Roger avait dû dire à ses amis beaucoup de bien de moi, car il me recevait toujours avec beaucoup d'amabilité. Pas plus que Roger, il ne prenait très au sérieux ma situation. Quand on sonnait, par exemple, et qu'il n'attendait personne, ses gens me faisaient signe de ne pas bouger. Il fermait aussitôt la porte de la pièce où je me trouvais comme si cela suffisait. Et quand le visiteur était quelqu'un de qui je n'avais rien à redouter, il le faisait entrer. Je rougissais chaque fois d'être ainsi découvert, sans avoir eu le temps de montrer que je ne me cachais pas. Comme Roger ne put pas faire grand-chose, il me vint l'idée que je pourrais peut-être reprendre ma situation au contentieux de la Nationale. Il me semblait que si l'on me recherchait encore, je l'aurais appris. J'aurais eu d'autres avertissements que ceux que j'avais eus. Il y a toujours des gens qui vous préviennent. Souvent, on m'avait prévenu. Il y a des gens dont il faut se méfier. Ce sont ceux qui viennent nous annoncer qu'on nous surveille. Plusieurs fois, on était venu m'avertir, mais je déteste cette espèce de messager. Je répondais par monosyllabes. Je leur montrais que je n'aimais pas leur façon d'agir. Je ne leur témoignais aucune reconnaissance. Je ne les remerciais même pas, ce qui me faisait des ennemis. C'est un comble, disait-il. Nous nous donnons le mal d'aller le mettre en garde, alors que rien ne nous y oblige. Nous le faisons par pure gentillesse, en ayant tout à perdre et rien à gagner, et l'on ne nous remercie même pas. On a même l'air vexé. Je guettais plusieurs jours de suite Friedel à la sortie de la Nationale. Il y avait une sorte de péristyle au haut duquel se trouvait la grande porte en fer forgé. Cela me faisait un drôle d'effet de voir mes pauvres petits collègues paraître dans cette entrée majestueuse de palais, sans se rendre compte du contraste qu'imposait à l'esprit leur aspect de petits employés, de les voir s'attendre, se parler comme avant la guerre, et je ne pouvais m'empêcher de me revoir par l'imagination parmi eux, pressés comme eux, avec cet air des employés qui n'ont qu'une heure et demie pour déjeuner et à qui, pour cette raison, le monde est indifférent. Rien n'était changé. Tout se passait comme si la France était libre. Friedel n'était jamais seul. Je le suivis plusieurs fois, mais au moment où il se séparait de son compagnon, il se mettait à courir, la conscience tranquille, pour arriver plus vite à la station de métro, et j'étais chaque fois frappé par le fait qu'il pût ainsi attirer l'attention sans s'en soucier le moins du monde, tellement il lui semblait naturel de courir quand on est pressé. Enfin, je pus lui parler. Je lui racontais ce qui m'était arrivé, omettant le principal, laissant entendre cependant que quelque chose de grave s'était passé. Nous nous étions évadés à 12. Il y avait eu une histoire au dernier moment. Je ne savais pas ce qui s'était passé exactement. Toujours était-il que nous étions recherchés par la police, etc. Je venais à peine de terminer mon récit lorsque je me rendis compte qu'en d'autres circonstances, je l'avais déjà fait de cette façon, par faiblesse, par peur de mentir et de dire la vérité. Cela faisait déjà plusieurs fois que j'en disais plus qu'il ne faut quand on veut cacher quelque chose. Un jour, cela me jouerait un vilain tour. Nous allâmes déjeuner ensemble. Je sentais qu'il y avait quelque chose entre Friedel et moi qui n'allait pas. Oh, il ne s'agissait pas de rivalité professionnelle, de jalousie. Il y avait un malaise. J'avais l'impression que tout le monde était au courant de mon histoire à la Nationale et que ce pauvre Friedel était dans cette situation où j'avais déjà vu tant de gens qui ne savent choisir entre l'amitié et la peur de se compromettre. Je lui dis tout de suite qu'il n'avait rien à craindre. Il me répondit que j'étais fou et sur un ton de si profonde sincérité qu'il m'apparut que je me trompais peut-être et que ma situation d'homme en marge me rendait trop susceptible. Mais le malaise ne s'effaçait pas. Je compris alors qu'il ne s'agissait pas de la peur de se compromettre, mais de notre différence non pas d'opinion, mais de réaction en face des événements. Je n'avais pourtant rien dit d'autre que je n'eusse dit avant la guerre. Friedel, de même. Brusquement, je fus pris d'une peur absurde. Je n'avais plus qu'une idée, partir, quitter Friedel avant qu'il fût trop tard. J'avais l'impression que plus rien de notre amitié n'existait, que Friedel était mon ennemi, qu'il allait se lever, appeler, crier que je ne pensais pas comme lui, qu'on allait lui donner raison, m'arrêter. Je ne pourrais même plus lui dire « Voyons, Friedel, qu'est-ce que tu as ?» Il ne me connaissait plus, il ne savait plus qui j'étais. je ne pus continuer à manger. Ce fut à la suite de cette histoire que je commençai à craindre de plus en plus le fanatisme, les gens qui criaient plus fort que les autres. J'avais peur des malentendus, des conversations politiques quand on était plusieurs. J'avais l'impression qu'on lisait sur mon visage ce que je pensais. J'avais l'impression que n'importe qui pouvait tendre le doigt vers moi, dire n'importe quoi, et qu'on allait m'arrêter sans que personne osât venir à mon secours, eût le courage de dire que je n'avais rien fait. Aussi, dès que les voix s'élevaient, je m'esquivais. Mais même alors, je tremblais qu'on interprétât mon départ comme une preuve de je ne sais quelle culpabilité. « Hep, là-bas, pourquoi partez-vous ? » Je hochai alors la tête en signe d'approbation. Ce qui me surprenait ensuite, c'était qu'il avait suffi d'un si petit geste pour inspirer confiance. Un hochement approbateur et j'étais digne de rester, de participer au projet futur. Mais le plus terrible était que ces dangers se présentaient aux moments les plus inattendus. Ils me guettaient tout le temps, quand j'achetais le journal, quand je disais bonjour à mon concierge. Il était très gentil, mais un jour, par hasard, je m'étais trouvé là au moment où il exposait ses opinions. Tout le monde au poteau. Depuis, chaque fois que je passais devant la loge, j'avais le sentiment, quand il me souriait, qu'il me faisait une grande faveur, mais que cela pouvait changer d'un moment à l'autre.